Mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 18h. Je vous propose que nous ouvrions cette séance. Je vais, comme il se doit, procéder à l'appel des membres du conseil municipal. Monsieur Détor est absent. Monsieur Frey est présent. Madame Escande. Monsieur Bonafou. Madame Perret est absente, a donné pouvoir à monsieur Bonafou. Monsieur Villa. Madame Vibarel est absente, m'a donné pouvoir. Monsieur Toureau. Madame Antoine est absente, a donné pouvoir à madame Escande. Monsieur Crabat. Monsieur, madame Raffanel. Monsieur Bentajou. Madame Guillou. Monsieur Ruiz. Monsieur Abadi. Madame Mathia. Madame Motte. Madame Ray. Madame Tardy. Madame Salgas. Monsieur Dominguez, Monsieur Glomo, Madame Mambria, absente, a donné pouvoir à Monsieur Perea, Monsieur Hugonnet, présent. Madame Maerten, Monsieur Perea, présent. Monsieur Vial, présent. Madame Mabelli, présent. Madame Auger-Comont est absente, a donné pouvoir à Monsieur Nadal, Monsieur Dumont, présent. Monsieur Nadal, présent. Monsieur Ivars, présent. Monsieur Figueras, Madame Catanzano, présent. Madame Varezano. Je vous remercie. Le quorum étant réuni, nous pourrons valablement délibérer. La feuille de présence va circuler parmi vous. Je vous demanderai de bien vouloir la signer. Il vous a été envoyé le procès-verbal du conseil municipal du 14 mars 2023. Avez-vous des remarques à formuler avant que nous le soumettions à vos voix? Pas de remarques? Y a-t-il des votes contre? Très bien, je vous remercie. C'est approuvé à l'unanimité des votants. Il me faut désigner le secrétaire de séance. Je propose Madame Escande. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Madame Escande est désignée secrétaire de séance. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire étant empêché d'exercer ses fonctions, je veux, avant de répondre aux questions orales et avant que nous n'examinions ensemble les questions inscrites à l'ordre du jour de la séance publique du Conseil municipal, m'adresser à vous tous. Une procédure judiciaire a été diligentée et il conviendra en responsabilité que nous considérions la gravité d'une telle procédure et des conséquences possibles. Je comprends l'émotion suscitée. J'ai demandé à la municipalité de ne commenter en aucune manière la procédure judiciaire en cours. Celle-ci est placée sous l'autorité indépendante de la justice et elle devra être conduite par le magistrat désigné dans le calme et le respect dû aux institutions. Je demande à chacun d'entre vous, où que vous vous situiez au sein de cette assemblée, de faire la preuve du sens des responsabilités qui est le vôtre. J'ai à cet effet demandé à rencontrer les représentants des oppositions afin de m'entretenir avec eux de la situation actuelle. J'ai pu échanger avec Madame Varezano. Monsieur Nadal n'a pas souhaité répondre à mon invitation. Dans les cadres des fonctions que je suis amené à assumer provisoirement, je prendrai toutes les dispositions nécessaires afin que chacune des règles qui prévalent soit appliquée strictement et respectée parfaitement, que ce soit au sein de cette Assemblée ou que ce soit dans l'exercice des missions qui incombent à l'administration municipale. Je veux aussi informer le Conseil municipal que l'action conduite par la municipalité ne connaîtra ni interruption, ni même ralentissement. Le projet validé par les Agathois verra sa mise en œuvre poursuivie selon le calendrier prévu et sur la base des moyens budgétaires dont la commune est assurée. Les chantiers engagés seront achevés et livrés aux dates prévues. Les travaux annoncés seront lancés conformément aux engagements pris par l'exécutif. Il n'y aura aucun retard, il n'y aura aucun renoncement. Les priorités fixées par le Conseil municipal sont inchangées et confirmées. Je tiens également à porter à votre connaissance que j'ai rencontré Monsieur le Préfet de l'Hérault et que je me suis entretenu avec Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Hérault afin de leur confirmer l'engagement et le niveau d'investissement de la ville d'Agde. Sachez que la commune est assurée du soutien des services de l'État et des services du département de l'Hérault. Je souhaite m'entretenir dans les tout prochains jours avec Madame la Présidente du Conseil régional d'Occitanie. S'agissant de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, une rencontre avec l'ensemble des maires des communes qui la composent a permis de garantir la continuité de l'action publique à l'échelle intercommunale. La gouvernance était apaisée, elle le demeure. Et je tiens en cela à saluer le sens des responsabilités d'Armand Rivière, premier vice-président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Enfin, par votre intermédiaire à toutes et à tous, je veux dire à tous les Agatois que la municipalité demeure entièrement mobilisée afin d'assurer la continuité de l'action municipale conduite à leur service avec calme, détermination et responsabilité. Je vais passer la parole à Monsieur Nadal pour la question orale qu'il a prévu de poser.
Merci Monsieur le Premier adjoint. Avant de poser ma question orale, quand même, puisqu'on m'avait interpellé sur le fait que vous m'aviez convoqué et que je n'étais pas venu, je tiens, puisque...
Je vous ai invité.
Alors, donc, je tiens à préciser certaines choses. Donc, j'ai reçu deux coups de téléphone, d'ailleurs, même pas officiellement, puisque c'est une de vos collaboratrices sur son téléphone privé portable qui m'a appelé, donc, mardi soir et hier soir. Et pourquoi j'ai décliné en fait l'invitation ? J'ai décliné l'invitation parce qu'elle m'a semblé bien tardive. Ça fait maintenant quasiment 17 jours que cette affaire, Gilles Détort, Sophia Martinez, et défrayé la chronique un petit peu. Et me donner un rendez-vous à moi à titre personnel, j'aurais aimé d'abord que vous invitiez tous les membres de ma minorité. Ce matin, en fin de matinée, sur le coin d'une table, moi je préfère que les échanges, Monsieur Frey, soit fait au vu de tout le monde. On n'a rien à cacher. Je ne sais pas ce qui a été dit avec ma collègue du Rassemblement national. Si vous aviez des choses à nous dire, je pense qu'il aurait été de bon ton de nous les dire, déjà de nous faire une convocation par les mails de la ville. Depuis 4 ans, on communique régulièrement s'agissant des commissions par des mails officiels. Encore hier, j'ai envoyé ma question écrite à 11h30 aux services concernés. Ils m'ont répondu qu'ils avaient bien reçu ma demande dans les secondes à venir. J'ai trouvé la manière un petit peu cavalière et comme ça, venir discuter ce matin, au bout de 17 jours, encore une fois, sur le coin d'une table, de ce qu'on allait faire pour la ville, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. Et je préfère qu'on parle entre
monsieur
nous.
Monsieur Nadal,
je vous ai pas interrompu. Laissez-moi aller jusqu'au bout, si vous permettez, monsieur. Donc, je préfère qu'on soit dans la transparence, la clarté, et qu'on ne soit pas dans une espèce d'opacité d'un discours dont je ne sais même pas ce qui a été dit ou pas dit. Voilà. Ça, c'était la première chose.
Alors, monsieur Nadal, vous n'avez
ensuite,
pas à vous justifier quant à votre décision de ne pas donner suite
à mon invitation.
Ce n'est
pas une justification, c'est une explication.
Vous n'êtes pas obligé de répondre aux invitations qui vous sont faites. J'en informe simplement le conseil municipal. Vous pouvez,
je termine,
question.
Attendez, je n'ai pas fini, si vous permettez. Et je trouve que la manière dont vous avez procédé, par coup de téléphone privé, d'un téléphone privé, enfin, franchement, on se croit revenu à des temps qu'on aimerait révolus.
Par la secrétaire de monsieur le maire.
Non. J'ai J'ai les numéros, j'ai les appels. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est un peu pathétique.
Madame, ensuite, la secrétaire donc, de Monsieur le Maire vous a appelé à deux reprises.
Non, à deux reprises. C'est un manque de considération envers les élus de la minorité. C'est dommage. C'est dommage pour la démocratie parce qu'on aurait pu faire ça de manière transparente. Depuis 17 jours, on avait le temps de se rencontrer, pas entre midi et deux, là, à quelques heures avant le Conseil. C'est dommage pour la démocratie. C'est dommage pour Agde que nous aimons et que nous avons à cœur
de
servir comme
compris.
Vous. Et
nous
sachez, on sera toujours au rendez-vous pour Agde et pour les Agatois, mais dans la clarté et la transparence, et pas un coup de téléphone le soir pour le lendemain pour discuter de je ne sais quoi.
Ce n'était pas le soir, c'était deux jours avant, donné par la secrétaire de Monsieur le Maire. Que les choses soient claires, si vous dites autre chose, c'est faux.
On ne va pas polémiquer là-dessus, puisque vous êtes dans vos certitudes.
Ah oui, j'en suis absolument certain. Oui.
J'aurais aimé que vous ayez eu d'autres certitudes dans d'autres époques.
Allez, posez votre question, monsieur le conseiller municipal.
Monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, depuis le 19 mars, Agde vit dans la tempête. C'est un moment grave, comme notre ville en a rarement connu. Les démêlés judiciaires de Gilles Détort plongent dans la stupeur toutes les Agatoises et tous les Agatois, et par extension, les habitants de l'agglomération Hérault-Méditerranée. Ce soir, je pense en premier lieu à tous ceux qui ont été trompés et pour certains trahis. S'ils pouvaient s'exprimer aujourd'hui, les Agatois demanderaient deux choses. Tout d'abord, ils exigeraient la démission de M. Détort, et ensuite, ils demanderaient des comptes au reste de son équipe municipale. Bien sûr, la justice doit faire son travail, et il faut respecter la présomption d'innocence. Pour autant, je partage la colère et la révolte des habitants. Ils ont perdu toute confiance dans leur maire. Je prends la mesure des faits ce soir. S'il s'agit d'un détournement d'argent public, comme le laisse pressentir l'évolution de l'enquête, il s'agirait alors de nos impôts, dans une période où beaucoup connaissent de graves difficultés financières et de pouvoir d'achat. De plus, c'est l'image de notre chère ville d'Agde, notre Agathe Tiché, qui est abîmée, salie, ridiculisée, devant la France entière, mais aussi à l'étranger. Nous sommes la première station touristique d'Europe. Le tourisme est le moteur principal de notre économie. Nous ne pouvons rester dans cette situation désastreuse. La seule chose que peut faire Gilles Détort pour remettre Agde sur la bonne route, c'est démissionner maintenant.
S'il vous plaît. Je demanderai à tout un chacun, quelles que soient ses convictions, de respecter le règlement qui sied dans cette assemblée. Il n'est pas autorisé de manifester ni son approbation ni sa désapprobation concernant les propos tenus dans l'assemblée municipale. Je vous remercie.
Monsieur Fruy, depuis 23 ans, vous êtes le premier adjoint de Gilles Détort. Vos bureaux sont mitoyens. Vous formez un binôme fusionnel. N'avez-vous rien vu venir? Est-ce crédible? Sans présumer des suites de l'enquête en cours, où commence et où se termine le système Détort? La justice déterminera à chaque niveau les responsabilités. Les Agatois veulent des réponses. Les Agatois veulent savoir comment on en est arrivé là. Et surtout, où allons-nous? Tous les élus du conseil municipal sont dépositaires de la confiance témoignée par les électeurs. Ils doivent s'en montrer dignes, chacun en son âme et conscience. Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la majorité, je vous demande à tous de démissionner. C'est la seule manière de ne pas cautionner ces dérives.
C'est la seule manière de redonner la parole
aux Agatois avec des élections municipales anticipées. C'est la seule manière de rendre à Agde confiance et sérénité. Il y a 4 ans, Agde juste était notre ambition. Elle le reste encore plus aujourd'hui. Je vous remercie.
Monsieur le conseiller municipal, vous venez d'exprimer au sein de cette assemblée les sentiments qui vous animent. Vous avez dit votre stupéfaction, votre colère, nous l'avons entendu. Vous avez dit aussi toute l'émotion qui vous a envahi. Alors oui, la procédure judiciaire à laquelle j'ai moi-même fait référence constitue un fait grave qui ne peut laisser aucun d'entre nous indifférent. Les informations qui nous ont été communiquées par voie de presse nous affectent toutes et tous, quelles que soient les convictions qui nous animent et quelles que soient les amitiés que nous partageons. Elles ont fait naître en nous tous des sentiments divers. Vous avez à l'instant exprimé ce que vous avez vous-même ressenti. Et chacun doit les respecter. Mais chacun doit aussi veiller, monsieur le conseiller municipal, à ce que les émotions qu'il éprouve ne viennent pas le submerger. S'agissant de monsieur le maire, vous avez, par précaution et par respect du droit, fait mention de la présomption d'innocence. Je mets donc sur le compte de votre émotion la demande qui est la vôtre, formulée en direction de tous les conseillers municipaux. Il n'y a ici, présent, aucun homme ni aucune femme dont l'intégrité ait été mise en cause par une autorité habilitée à le faire. Exigez, comme vous venez de le faire, la démission des membres du conseil municipal revient à mettre en cause publiquement la probité de chacune et de chacun. Il s'agit là, monsieur le conseiller municipal, vous devez en être conscient, d'une accusation très grave. Comme j'ai tenu à le dire en introduction de cette séance publique du conseil municipal, la municipalité est pour sa part entièrement mobilisée afin d'assurer la continuité de l'action engagée au service de tous les Agatois. Et elle le fera, comme je l'ai également indiqué, avec calme, avec détermination et avec responsabilité. Je veux ajouter, en m'adressant tout particulièrement aux élus de la majorité municipale, qu'ils peuvent être, qu'ils doivent être fiers de l'action qu'ils ont accomplie et qu'ils continuent d'accomplir. Le travail réalisé depuis 2 décennies est important et n'est pas contesté. Il a transformé notre ville, il a assuré son développement et sa modernisation tout en respectant et mieux encore en valorisant son identité. Les Agatois, dont l'engagement citoyen est une caractéristique forte de notre vie sociale, ont à 5 reprises depuis 2001 élu l'équipe de l'Union Agatoise, ils l'ont fait rationnellement, en raison de l'appréciation positive qui a été la leur de l'action municipale conduite à leur service. Notre ville investit chaque année des moyens importants pour améliorer la qualité de vie de tous nos concitoyens. Le Cap d'Agde, créé dans les années 70 par l'État, bénéficie depuis plusieurs années de chantiers de restructuration majeurs qui lui permettent aujourd'hui de rester à la pointe de l'attractivité touristique. C'est le travail de notre municipalité. Le Gros d'Agde dispose d'une promenade en front de mer qui fait désormais le bonheur de tous les Agatois. C'est le travail de notre municipalité. Le vaste chantier de réhabilitation du cœur de ville en cours est salué par l'État comme étant exemplaire. Il va redonner à ce quartier que nous aimons tant un rôle majeur au sein de notre ville. C'est le travail, le long travail de notre municipalité. La construction récente de nombreux équipements sanitaires, d'équipements sportifs, d'équipements culturels ou d'équipements à vocation touristique, c'est le travail de notre municipalité. la valorisation de nos espaces naturels ou la restauration de nos édifices patrimoniaux, c'est aussi le travail de notre municipalité. Et nous en parlerons dans quelques instants. Le taux de la taxe foncière n'a pas augmenté d'une seule décimale depuis 2016, pour devenir le plus bas des communes depuis 16 ans, pardon, depuis 2008, 16 ans, pour devenir le plus bas des communes de plus de 20 000 habitants de tout notre département. C'est encore le travail de notre municipalité. Alors, oui, oui, nous vivons des moments qui sont humainement difficiles. Mais le travail accompli est celui d'une équipe d'élus et de fonctionnaires qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de leur ville et de tous les Agathois. C'est pourquoi je veux être ici et maintenant leur représentant pour vous dire à toutes et à tous notre désarroi, mais aussi la fierté de l'engagement qui est collectivement le nôtre. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Je donne la parole à Madame Varesano pour qu'elle puisse poser la question qu'elle nous a communiquée.
Monsieur le Premier adjoint, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, avant de vous faire part de ma question orale, je voudrais simplement préciser brièvement à Monsieur Nadal que le fait d'avoir accepté cet entretien, cette invitation, n'enlève absolument rien à la transparence que je souhaite avoir également avec les Agathois. C'est un rendez-vous que j'aurais préféré, je vous l'ai dit d'ailleurs, Monsieur Frey, ce matin, que l'on ait il y a quelques jours déjà. Mais je n'ai absolument pas hésité à me rendre à ce rendez-vous, puisque je pense qu'aujourd'hui, Agde est dans une telle situation que toute discussion qui peut être favorable à sa gestion, à ses habitants, est à prendre. Voilà. Simplement.
Non, c'est vrai.
Donc ce soir, comme vous l'avez compris, ce conseil municipal s'ouvre dans un moment chaotique pour notre ville. Depuis 15 jours, l'image d'Agde est profondément entachée et je veux d'abord avoir un mot et une pensée pour les habitants de notre ville qui se sentent floués et ridiculisés. Je pense également aux fonctionnaires et aux agents municipaux sur lesquels rejaillira un opprobre généralisé tant que toute la lumière sur cette affaire n'aura pas été faite. Avant toute chose, soyons clairs. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, Monsieur le maire et tous les prévenus sont présumés innocents. Tous ici autour de cette table respectons les principes de notre État de droit et de notre République. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce sujet. Néanmoins, si les faits sont avérés, ils sont gravissimes. Et face à cela, la majorité doit agir de manière responsable. La première de ces responsabilités est d'être en mesure de fournir des réponses claires et précises aux Agathois. Des réponses notamment sur la manière dont l'argent de la mairie, leur argent donc, a été dépensé. Plus vous tarderez à donner des réponses, plus leurs doutes seront profonds et plus la suspicion sera généralisée. Je ne suis pas procureur, je ne tiendrai pas ce rôle que je laisse à la justice. Néanmoins, je suis conseillère municipale, une conseillère municipale soucieuse de l'image de sa ville et de la gestion saine de l'argent du contribuable. C'est pourquoi j'ai des questions à l'intention de la majorité municipale, des questions qui touchent à la gestion de la ville et à l'argent des Agathois. Ma première question concerne les embauches de la ville. Le directeur des services techniques fait partie des mises en cause. Possédait-il les qualifications requises pour ce poste? Qui a signé son contrat et quand? La majorité peut-elle affirmer que cela s'est fait dans les règles? D'autre part, savez-vous si d'autres recrutements de la municipalité sont susceptibles d'être concernés par cette affaire? Ma deuxième question, qui est à mon sens fondamentale, est la suivante. La municipalité, par la voix de ce conseil, a-t-elle l'intention de se constituer partie civile pour que justice soit faite, afin de se voir restituer les sommes détournées si le détournement des fonds est avéré? La troisième question que je vous pose concerne la protection fonctionnelle du maire. J'ose espérer que cela n'est évidemment pas envisagé, mais je préfère que les choses soient clairement dites. Vous le savez, un maire dans fonction peut demander à la mairie une protection fonctionnelle, c'est-à-dire prise en charge de ses frais de justice par la mairie. Alors ma question est, envisagez-vous de payer les frais de justice de M. Détort ? Ce serait la double peine pour les Agathois. Ma dernière question porte sur l'avenir de ce conseil municipal. Si M. Détort est condamné en première instance pour les faits qui lui sont reprochés, que déciderez-vous de faire ? Allez-vous demander la démission de M. Détort ? Et s'il ne le fait pas, prendrez-vous vos responsabilités ? Ou attendrez-vous le potentiel appel ou même pourvoi en cassation, ce qui peut prendre plusieurs années, et engluerez notre ville dans les affaires pour longtemps encore ? Je rappelle d'ailleurs que M. Détort continue de percevoir ses indemnités de maire et de président de l'Aglo.
Non.
Eh bien, c'est parfait. Vous allez répondre à ma question avant que je vous la pose. Je vous remercie de votre attention, de la précision et de la véracité que vous apporterez à ces questions.
Merci, Madame la conseillère municipale. Alors, pour répondre en aparté, puisque je crois que ce point ne figurait pas dans votre question telle que vous nous l'aviez communiquée, non, les indemnités sont suspendues à compter de la date du 21 mars. En premier lieu, je tiens à saluer le ton que vous avez employé.
Petite précision, oui, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais est-ce que vous êtes attribué les indemnités de M. Détort s'il ne les perçoit plus ?
Non plus, c'est non une plus. Possibilité, mais
oui,
ce
n'est pas ce qui a été décidé. D'accord, comme on aborde le sujet. Merci.
En premier lieu, je tiens donc à saluer le ton que vous avez employé. Les questions sont directes, mais elles sont tout aussi légitimes. Votre posture est respectueuse des règles qui régissent cette assemblée municipale et de toutes les personnes qui y siègent. En cela, je vous remercie. S'agissant de votre première question relative au recrutement de proches de Madame Martinez, donc je crois utile de préciser tout d'abord que son époux recruté le 1er juillet 2023, pour être précis, pour une durée déterminée de 1 an, n'a pas occupé, comme il l'a été dit depuis 15 jours, les fonctions de directeur général des services techniques, qui est ici présent, mais celle de directeur du centre technique, un service qui réunit les régies municipales, autrement dit les ateliers de peinture, d'électricité, de serrurerie et autres corps de métier. Je précise parce qu'il n'a en aucun cas assumé d'autres responsabilités que celle-ci, que celle que je viens d'évoquer. Son contrat le positionnant en catégorie C, c'est-à-dire la plus basse catégorie dans le cadre de la fonction publique territoriale, a été signé le 3 juin 2023 et il a été suspendu. Il a été fait référence à 3 autres recrutements effectués dans l'entourage immédiat de Madame Martinez. J'ai demandé qu'il soit mis un terme à chacun d'entre eux. Et donc, à ce jour, je suis en mesure de vous dire qu'aucune de ces personnes ne figure plus parmi les effectifs municipaux. S'agissant de votre deuxième question, au terme de laquelle vous m'interrogez quant à l'intention de la collectivité de se porter partie civile, je veux aussi clairement indiquer qu'à l'heure où nous parlons, la ville d'Agde n'a aucune autre information relative à la procédure judiciaire que celle qui ont été communiqués par voie de presse par Monsieur le procureur. Bien évidemment, la ville d'Agde n'a pas accès au dossier et par voie de conséquence, il n'est pas possible aujourd'hui, pour le moment, de déterminer si notre collectivité a subi ou non un préjudice. Il serait présumé.
Mais justement, en se portant partie civile, on a accès au dossier, non ? Je pense que c'est...
Alors, nous attendons le déroulement de la procédure judiciaire. Nous voulons obtenir des renseignements en ce sens. Et du point de vue du droit, pour répondre à votre question, Madame la conseillère municipale, la constitution de partie civile est possible jusqu'avant les réquisitions du ministère public. Il n'y a pas de délai proche qui nous priverait du droit fait à la collectivité de se constituer partie civile dans le cas où la décision serait prise. C'est un point de vue de droit. S'agissant de votre troisième question relative à la protection fonctionnelle, là aussi, pour être le plus clair possible, il n'a pas été pris de disposition visant l'octroi de celle-ci. Vous comprendrez donc, il n'y a pas de protection fonctionnelle qui ait été décidée.
Et si Monsieur Détang vous sollicite pour avoir...
Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de disposition prise aujourd'hui pour octroyer la protection fonctionnelle. Enfin, s'agissant de votre quatrième et dernière question portant sur l'issue de la procédure judiciaire, ainsi que sur les conséquences qu'elle pourrait avoir, je voudrais que vous entendiez, Madame la conseillère municipale, que, et je pense que vous en serez d'accord, même si vous auriez aimé que je vous réponde plus précisément à votre question, que répondre aujourd'hui à votre interrogation contredirait le principe de présomption d'innocence auquel vous-même avez très justement fait référence. Vous avez raison, nous devons prendre nos responsabilités et celles-ci nous intiment d'assurer la continuité de l'action municipale au service des Agathois. Nous y mettrons toute notre énergie. Voici pour la réponse que je suis en mesure, au vu des éléments qui me sont communiqués, de vous apporter, Madame la conseillère municipale, ces questions orales n'autorisant pas de débat à leur suite.
Oui, simplement que j'utilisais le conditionnel, Monsieur Fray. Je disais si Monsieur Détort est condamné. C'était le conditionnel. Aujourd'hui, oui, c'est très bien qu'il n'est pas condamné.
On ne fait pas de politique fiction, s'il vous plaît.
Ce n'est pas de la politique fiction. Je pense que ça t'intéresse. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de débat, mais je voulais préciser que c'était au conditionnel.
D'accord.
Il faut se projeter. Voilà.
Okay.
À toute éventualité.
Nous nous projetons dans le travail qui incombe à la municipalité et ce, sans limiter notre énergie. Je vous remercie.
Monsieur Fray, apparemment, il y a débat, puisque vous autorisez ma collègue à parler.
Monsieur
et moi,
Nadal,
vous m'autorisez pas.
S'il vous plaît,
je ne peux pas répondre à ce que vous avez dit.
Non, d'accord. Nous allons maintenant. Je vais vous passer à l'examen de l'ordre du jour qui vous a été communiqué. Je voudrais auparavant vous demander d'inscrire une question diverse relative à l'avis concernant la mise à jour du document stratégique de façade de la Méditerranée et au développement de l'éolien en mer et sa cartographie. Je vous expliquerai plus précisément en fin de réunion les raisons pour lesquelles il nous est impératif de délibérer aujourd'hui, étant donné que la concertation engagée par les services de l'État prendra fin le 26 de ce mois et que par conséquent nous n'aurons plus l'occasion de délibérer. Je vous présenterai donc une délibération que je vous expliciterai et qu'il nous faudra mettre aux voix en fin de cette séance. La première question. Alors, il faut mettre aux voix d'ailleurs l'inscription de cette question. Y a-t-il des gens qui sont contre le fait que nous inscrivions cette question à l'ordre du jour, en questions diverses, pardon? Des votes contre, des abstentions?
On s'abstient, on découvre quelque chose qui est très important, qui est cette chose-là. On la découvre à l'instant.
Alors, est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez?
Non,
est-ce que vous êtes pour?
Non, on s'abstient.
Vous abstenez, très bien, mais parfait, mais c'est votre responsabilité, aucun problème. Alors, nous allons passer à l'examen de la question 1 de l'ordre du jour qui vous a été communiqué. Il s'agit du vote et des taux 2024. Je vais passer la parole à Madame Raffanel.
Merci, Monsieur le Premier adjoint. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 15 mars 2024, la Direction générale des finances publiques nous a transmis l'évolution des bases fiscales communales et les produits fiscaux correspondants pour 2024, dont vous trouverez le détail dans la délibération. Nous enregistrons pour 2024 un produit fiscal à hauteur de 50 millions d'euros. Alors, pour rappel, les bases d'imposition, elles évoluent en fonction de l'évolution physique et de la revalorisation forfaitaire des bases qui s'élève à 3,9%. Cette revalorisation, elle est fonction de l'inflation et plus précisément de l'indice des prix à la consommation. Donc ces bases d'imposition, elles sont définies par l'État. Lors du dernier débat d'orientation budgétaire, le 20 novembre 2023, nous avons examiné les orientations et les objectifs de la ville en matière financière. Et dans ce cadre, et malgré une conjoncture économique difficile, qui est marquée par l'inflation, il a été décidé de maintenir des taux d'imposition inchangés. Pour la 16e année consécutive, l'équilibre budgétaire est maintenu sans pression fiscale supplémentaire. Il vous est donc proposé de maintenir les taux suivants. 46,91% pour la taxe sur le foncier bâti, 65,02% sur la taxe sur le foncier non bâti et 18,99% pour la taxe d'habitation. À titre d'information, vous trouverez projetés à l'écran les éléments comparatifs de 7 communes de plus de 20 000 habitants du département de l'Hérault. Vous pourrez constater que nous avons le taux le plus faible. Je vous propose à présent de vous prononcer sur les taux d'imposition inchangés pour l'année 2024. Je vous remercie.
Merci, Madame l'adjointe. Avez-vous des questions ? Oui, Monsieur Nadal.
Oui, on a des questions, bien sûr, mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même corriger ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Fruit, puisqu'on n'a pas le droit de répondre après une question écrite, mais quand même, je pense que tous les agathos et toutes les agathoises qui sont venus nombreux aujourd'hui veulent des explications.
Monsieur Nadal, je vous prie de respecter l'ordre du jour. Nous sommes maintenant sur la question qui concerne le vote des taux 2024.
Je vais en parler un petit peu. On a tellement peu l'occasion d'échanger, puisqu'on n'a pas échangé ce matin.
Mais si vous ne venez pas à nos rendez-vous, c'est sûr que c'est plus compliqué.
Tout doit être clair, Monsieur Fré. Jamais en catimini, devant tout le monde, vous voyez, devant les journalistes, devant la... On parle ensemble.
Allez, parlons des taux.
Ne refusez pas la discussion. Je n'ai jamais accusé quiconque dans cette assemblée de manque à la probité et à son intégrité. C'est vous qui l'avez dit. Je n'ai jamais dit ça.
Je n'ai jamais dit ça, vous avez interprété.
Je vous ai seulement interrogé sur le fait que depuis 23 ans, vous étiez écouté et que vous n'aviez rien vu. C'est vous. Peut-être qui devrait vous poser ces questions-là. Mais à aucun moment, je n'ai interpellé mes chers collègues là autour. Peut-être que... Ils ne vous justifient pas, M. Nadal. Vous avez employé des mots qui sont faux. Je n'ai jamais accusé qui que
Parlons
ce soit
des taux,
ici
monsieur Nadal, de, s'il vous plaît.
De troubles,
monsieur Nadal.
De leur intégrité, etc. S'agissant après... de ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque vous avez... Vous autorisez ma collègue à échanger avec vous... Et moi, vous ne m'autorisez pas à changer avec vous.
Monsieur le conseiller municipal, je vous demande, s'il vous plaît, très calmement, de respecter l'ordre qui sied à cette assemblée et de vous exprimer sur les questions qui sont mises au débat. On a compris que vous étiez mal exprimé, que vos propos ont été certainement mal compris. Pour le coup,
C'est pas le débat ?
Nous parlons... maintenant, du vote des taux 2024, votre avis est le bienvenu.
Il n'y a rien à faire, nous l'entendrons avec beaucoup d'intérêt. Il ne s'est rien passé, on fait tout, rien ne s'est passé, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après.
Monsieur le conseiller municipal, respectez l'ordre, s'il vous plaît, qui est fixé par l'ordre du jour de ce conseil municipal.
Nous sommes
Soyez responsable.
Je suis responsable.
Vous ne voulez pas parler des taux ?
Si, on va parler
des taux. Alors, parlez des taux, nous vous écoutons.
Mais avant, quand même, je pense qu'il est important de rectifier ce que vous avez dit tout à l'heure.
Eh bien, vous le rectifierez comme vous voulez. Nous parlons maintenant des taux.
Voilà, donc voilà. Maintenant,
nous
on va parler
écoutons.
Des taux, mais je voulais quand même apporter ces précisions et les informations que vous aviez données.
Très bien. Monsieur Dumont, vous avez la parole.
Oui, concernant ces taux, effectivement, les taux n'ont pas évolué depuis...
2008, oui.
Simplement, il est présenté dans la délibération un tableau et les taux n'ont pas évolué, mais il y a de nouveaux impôts qui sont arrivés. On a voté, donc, si je me souviens bien, en 2023 ou début 2024, la taxe majoration de taxe d'habitation. Et ce qui fait qu'il représente quand même une augmentation des impôts payés par la population, à la fois touristique, mais aussi par les agathois, qui représente quand même 2 millions d'euros quasiment. Donc ça veut dire que, effectivement, les taux sont maintenus, mais il y a eu des possibilités réglementaires. Je reviens là-dessus. Effectivement, la commune avait le droit de créer cette taxe, mais il n'empêche que ça représente 2 millions d'euros. Et donc l'équilibre budgétaire est fait sur un nouvel impôt. Voilà.
Alors, ce que vous dites, Monsieur Dumont, est en partie vrai.
Vrai.
Oui, non, mais en partie parce que je vais vous dire, moi, la façon dont je vois les choses et dont je vais les expliquer. Et vous l'avez d'ailleurs admis, nous en discutons parfois ensemble, de manière très, très calme. La taxe foncière, le taux de la taxe foncière de la commune d'Agde n'a pas varié depuis 2008. Donc cela fait, comme l'indiquait Mme Raffanel, 16 ans que le taux de taxe foncière de la commune n'a pas été augmenté. Ce qui met la commune d'Agde, vous le voyez, parmi les 7 commune de plus de 20 000 habitants du département comme étant la ville ayant le taux de taxe foncière le plus bas. Ça, c'est une réalité dont nous devons d'ailleurs tous nous satisfaire, je l'espère, et qui ne peut échapper à personne. Vous faites référence à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, puisque la taxe d'habitation, elle, vous le savez, n'existe plus, n'est plus acquittée par qui que ce soit ici. Il demeure une taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui est acquittée par des personnes qui ont leur résidence principale à Paris, Lyon, Toulouse, ailleurs, et qui ont un appartement ou une maison ici qu'ils occupent pendant leurs vacances. Ces personnes doivent s'acquitter, elles, ce sont les seules qui ont aujourd'hui à s'acquitter en France d'une taxe d'habitation, avec celles qui louent aussi en location saisonnière leur appartement. Et donc, nous avons décidé, mais on l'a assumé totalement en fin d'année 2023, d'augmenter le taux de cette taxe d'habitation due uniquement par les gens qui ont une résidence secondaire de 15%. 15%. Le montant généré par ce produit fiscal supplémentaire sera affecté à la réhabilitation de l'immobilier de loisirs au Cap d'Agde et au programme de rénovation de nos voiries. Ça a été tracé. Et pour compléter cette information, je voudrais prendre d'autres communes, parce que là, toutes les communes ne sont pas éligibles à la THRS. Ce sont celles qui sont sur le littoral, principalement. Donc, oui, la commune d'Agde a augmenté le taux de 15% d'un impôt qui n'est pas dû par les Agatois. À titre d'information, les communes voisines, Amis, Marseillan a voté 60%, Metz a voté 60%, Frontignan a voté 60%, Sète a voté 60%, Agde a voté 15%. Voici pour les éléments d'information que je pouvais vous communiquer en réponse à votre intervention, monsieur.
J'ai simplement entendu tout à l'heure que le budget se faisait sans pression fiscale supplémentaire.
Oui, d'accord.
Voilà. Non, mais
en tout cas, sans pression fiscale supplémentaire fois, sur les agatois.
À la fois préciser que depuis 16 ans, il n'y a pas eu d'augmentation des taux, à la fois qu'il n'y a pas de pression fiscale supplémentaire, sauf qu'il y a 2 millions d'impôts
oui,
supplémentaires.
Mais admettez, voilà. Monsieur Dumont, que cet impôt n'est pas dû par les agatois. Par les gens qui ont une résidence secondaire à Agde.
Y compris des agatois.
Par les gens qui ont une résidence secondaire à Agde.
Y compris des
agatois. Oui, enfin, si vous avez une maison à Agde et que vous avez une résidence secondaire au Cap, vous avez beaucoup de chance, ou au gros. Mais bon, ces gens sont plutôt rares. En revanche, il y a en effet beaucoup de personnes qui habitent à l'extérieur de la ville d'Agde et qui ont une résidence secondaire dans notre commune. Et nous avons considéré qu'il était préférable de les faire contribuer, eux, à l'effort fiscale de la commune que les agatois. Donc on l'assume complètement. Et encore, on a augmenté cette THRS que de 15% alors que les communes voisines et amies l'ont augmenté de 60%. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Bon, il nous faut mettre les taux aux voix. Donc y a-t-il des votes contre ? Ok, vous êtes contre la stabilisation. Y a-t-il des abstentions ? Madame Arezzano, donc les taux sont approuvés par la majorité. Je vous remercie. La question suivante est présentée par Monsieur Villa. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations dans le cadre de l'exercice 2024.
Merci Monsieur le Premier adjoint. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une part de procéder au vote d'une subvention de fonctionnement pour l'association des plaisanciers d'Agde et du Cap pour un montant de 1 500 €. Et d'autre part, d'une subvention pour une action aux associations suivantes. Société des régates d'Agde et du Cap, d'un montant de 3 300 € et d'une action pour le Boxing Club Azzaro dans l'optique d'un gala de boxe pour un montant de 2 500 €. Il est donc proposé au Conseil municipal de voter les subventions pour un montant total de 7 300 €.
Merci, c'est concis, c'est clair. Y a-t-il des questions ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, je n'en vois pas. C'est approuvé à l'unanimité. C'est parfait. Merci beaucoup. Question 3. Je passe la parole à M. Perea. Alors, qui va nous annoncer une bonne nouvelle, parce qu'avec M. Dumont, avec qui nous avons évoqué ce sujet en commission, nous avions abordé le fait que nous avions à délibérer une seconde fois en 15 jours, puisque la convention avait été présentée au mois de mars. Nous avons obtenu des services les raisons pour lesquelles nous devions représenter cette délibération. Mais comme les choses sont intéressantes, mais jamais simples avec l'EPF, mais que parfois elles sont jalonnées de bonnes nouvelles, je vais laisser la parole à M. Perea pour qu'il nous explique ce qu'il en est.
Merci beaucoup. En effet, la concision sera moins présente dans cette délibération. Je vous prie de m'en excuser, d'autant que j'ai oublié mes lunettes. Alors, ce sera moins littéraire. Il y a effectivement une modification en raison d'une proposition que l'EPF nous a faite aujourd'hui à 14h. Donc, il n'était pas possible de modifier. Et je vous demanderai si vous êtes d'accord pour voter cette délibération sous réserve de la modification que je vais présenter. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, l'EPF fait du portage de terrain, c'est-à-dire qu'il achète des terrains qui sont stratégiques dans des centres anciens et les revend moins cher aux communes et à leurs partenaires pour qu'elles puissent faire des opérations qui sont d'intérêt public, notamment qui ont trait aux logements sociaux. Et elle leur vend moins cher parce qu'elle puise dans le fonds des pénalités SRU nationales. Donc nous avons signé au précédent conseil une convention avec l'EPF qui s'engageait à hauteur de 1,5 million d'euros pour la commune d'Agde. Et puis, quelques temps après, ils nous ont recontactés en nous disant qu'à la faveur de réunions qu'ils avaient eues et des calculs qui avaient été faits, ils proposaient qu'on monte ce montant à 2,5 millions, ce qui est une bonne nouvelle. Mais voilà, l'EPF est assez peu informé, ou en tout cas prend moins en compte nos dates de conseil. Donc c'est tombé un peu de temps après que l'on ait voté la délibération. Cet après-midi, ils nous ont de nouveau contactés pour nous faire part de leur souhait de monter cette fois-ci à 3,8 millions. Donc ils ont fait plus que doubler la proposition. C'est la martingale, mais visiblement les fonds SRU remplissent bien. Donc c'est une excellente nouvelle pour le centre ancien, pour reprendre leur terme, et le cœur de ville, pour reprendre le nôtre d'Agde, puisque ça va permettre évidemment de nouvelles opérations dans le cœur de ville qui en a bien besoin. Je précise que si l'EPF le fait, parce qu'on peut aussi parler de la fierté des actions, et pour ma part notamment celle au cœur de ville, cela rejoint tout un ensemble de retours que l'on a extrêmement positifs, et je pense que les Agatoises et les Agatois qui sont attachés à leur cœur de ville s'en satisfont et peuvent s'en satisfaire. Notamment, on a été distingués, si j'ose dire, par l'ANRU pour aller représenter, nous serons la seule commune pour aller présenter notre projet de cœur de ville à une convention qu'ils organisent la semaine prochaine à Avignon, j'irai avec le DGS de la communauté d'agglomération. Et c'est notamment cette distinction, elle est due à un travail à 360 degrés. Alors je dis toujours employer cette expression parce que très mauvais en chiffres, je ne sais jamais si c'est 360, 380, je ne sais pas comment on fait le tour 360, complet. 360, c'est ça. 360, merci monsieur le premier adjoint. Et qui va venir transformer durablement ce cœur de ville. Juste quand même quelques chiffres pour information. Dans ce cœur de ville, il y a 3 500 habitants. On rénove, entre les dispositifs NPNRU et Action Cœur de Ville, plus de 400 logements aujourd'hui contractualisés, 450, je pense, d'ici un an ou deux ans. Et en termes d'engagement financier, c'est assez important, puisque l'ANRU s'était engagé à hauteur de 39,5 millions d'euros. C'est le montant que l'on voit généralement dans les PowerPoint qui circulent. Mais en réalité, ils vont monter jusqu'à 50 millions d'euros. Et du côté d'Action Cœur de Ville, qui est un dispositif national qui travaille sur les mobilités, sur la culture, sur l'habitat, sur le commerce, et notamment sur la rénovation de l'habitat pour les particuliers, il y a plus de 100 millions d'euros, j'arrive même pas à le dire, 100 millions d'euros qui sont avancés. Donc tous ces moyens, ça permet évidemment Alors, les différents dispositifs qui sont pointés, mais sans mes lunettes, je ne pourrais pas vous les commenter, je vous prie de m'en excuser, au cœur de ville, les voiries, les infrastructures, la TAG et la MAG, j'utilise les bons sigles pour Mme Escande, la méditerranéenne, la gare, la revitalisation commerciale, nous allons avoir dans un mois 17 commerces qui vont s'implanter, et c'est une première étape, dans la rue Honoré-Muraté et dans la rue Jean-Roger, et puis il y a évidemment tous ces logements, alors pour partie, pour moitié, dans les îlots que vous connaissez désormais, et les autres auprès des particuliers. Je rajoute souvent que quand on parle du cœur de ville, on pense infrastructure, on pense commerce, on pense habitat, mais il y a aussi tout le travail qui est fait autour de la cohésion sociale et les équipes qui travaillent autour du contrat de ville pour financer les associations qui sont extrêmement présentes au cœur de ville. Le dispositif de GUSP qui vise à rapprocher en gros les différents dispositifs administratifs des administrés. Le nouveau centre social qui aura lieu à l'ancien hôpital Lachaud et puis notamment d'autres dispositifs qui vont être mis en place tels que un espace dans la rue Chassefière destiné aux femmes et à la préservation de leurs droits auxquels nous sommes tous particulièrement attachés. Voilà. Donc je termine sur ma délibération. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Il s'agirait de la voter si vous en êtes d'accord en modifiant le montant et demandant et ratifiant que l'EPF ne s'engage pas à 2,5 millions d'euros mais bien à 3,8 millions d'euros.
Merci, Monsieur Perea. Donc, c'est une bonne nouvelle que vous nous apportez là et que nous devons insérer dans la délibération corrigée qu'il nous faudra mettre aux voix après que nous ayons échangé. Monsieur Dumont.
Oui, comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous le dire, et on a une jolie carte là qui est très bien, qui nous montre le centre ancien. C'est très bien de voir le centre ancien, mais la méditerranéenne, je ne vois pas trop le rapport entre la méditerranéenne et le centre ancien. Voilà.
Alors,
au-delà de ça, c'est une très bonne nouvelle.
Oui, non, mais nous en parlons. Mais, alors, je vais en dire quelques mots. François Perea complétera, puisque c'est lui qui est à la manœuvre sur ces dossiers. L'élargissement du périmètre correspond alors d'une part à une demande de nos partenaires de l'État et de l'EPF, mais aussi d'une volonté municipale parce que nous considérons que depuis trop longtemps, le centre ancien, le centre historique, le cœur de ville, a été enserré entre la promenade qui constituait, et c'était malheureux, une sorte de césure, puisque c'était devenu un parking avec un dénivelé important d'environ 1,80 m, d'une part, et puis de l'autre côté, le fleuve Hérault, qui jusqu'à il y a 15-20 ans n'était absolument pas vécu comme un lieu de rencontre, mais comme une autre limite. Rappelez-vous, les quais Alexandre Audreuil étaient totalement impraticable pour les piétons. De l'autre côté, le quai Commandant Réveil ne était pas davantage. Il y avait le château Laurent était à l'état de ruine. Donc, hormis ces réalisations, le moulin des évêques qui avait été désaffecté, hormis ces investissements réalisés déjà importants, la volonté de la ville et de la communauté d'agglomération est de rénover le quartier que l'on appelle le quartier du bout du pont avec la gare, mais aussi la friche industrielle de la méditerranéenne qui va devenir demain un lieu de vie économique et de formation, et puis encore après le canal du Midi, alors qui n'est certes pas facile à sortir des cartons, mais que l'on va arriver à faire devenir une réalité comme pour tous les autres projets. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'hypercentre, le centre ancien, a besoin d'être ouvert de part et d'autre pour retrouver la place qui doit être la sienne au cœur de notre grande commune. Voilà. Et on ne peut pas raisonner aménagement, revitalisation, redynamisation du centre ancien si on ne raisonne que dans les limites qui étaient fixées hier par la promenade et le fleuve. Donc c'est la raison pour laquelle, en matière de stratégie d'aménagement et de revitalisation, il a été décidé d'élargir le périmètre, ce qui ne dilue pas, vous avez déjà posé la question, monsieur Dumont, c'est normal que vous la posiez, ce qui ne dilue pas les engagements financiers, puisqu'on voit bien qu'ils sont allés crescendo. Donc il n'y a pas eu, ce risque n'a pas été avéré. Voilà. François, si tu veux rajouter quelques mots.
Oui, merci. Juste deux mots. Pour dire, si vous regardez les pastilles colorées, vous voyez qu'elles sont assez dispersées en ordre, si j'ose dire, de part et d'autre de l'Hérault, parce que les financements NPNRU sont concentrés sur le cœur de ville, et les financements action cœur de ville, il y en a d'ailleurs au cœur de ville, mais permettent un peu de désenclaver le cœur de ville. C'est une demande des partenaires, et les financements qui vont dans cette connexion de l'hypercœur de ville au reste de la cité, elles sont complémentaires, elles ne sont jamais prises sur le cœur de ville. Mais parce qu'on a pu élargir, et d'ailleurs à la demande des partenaires, un second périmètre, un périmètre plus large qui est celui d'Action Cœur de Ville, eh bien on peut aller capter des nouveaux financements que l'on n'aurait pas eu sinon pour le cœur de ville. Voilà. Donc c'est vraiment une complémentarité et ça n'enlève absolument rien au financement qu'il y a au cœur de ville lui-même.
Merci, Monsieur Pereira.
En ce qui me concerne, je n'ai parlé que de la Méditerranéenne. Je n'ai pas parlé de Château-Laurent ou d'autres
projets. Non,
gare qui me paraissent effectivement faire partie de manière historique du centre-ville.
On ne tient pas à déformer les propos de tous les membres de l'opposition.
Puisque j'y suis, il y a une question. Il était question du parking sur la promenade. Il en est où ?
Parking sur la promenade, mais il est toujours prévu. Oui, alors je sais qu'il y a une rumeur qui a couru comme quoi il n'y aurait plus de parking sur la promenade. Mais non, je suis désolé, le parking sera aménagé sous la promenade comme il a été dit qu'il le serait.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on fait d'ailleurs un référé préventif de manière à engager les travaux dans la plus parfaite rigueur en matière juridique. Donc les choses sont en cours. Y a-t-il d'autres questions ? Je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Aucune. C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Alors, Monsieur Bentajou, nous vous écoutons pour 5 questions. La première concerne une cession de l'eau. C'est une délibération, d'ailleurs, qui avait déjà été présentée, qu'il nous faut redélibérer.
Monsieur Merci, Bentajou. Monsieur le Premier adjoint. Il s'agit de la question numéro 4. Il s'agit d'une délibération complémentaire concernant la cession de lots 3 et 4 de l'immeuble en copropriété LEI 94 au profit de Mme Lionti. Par délibération du 26 septembre 23, la vente des lots 3 et 4 de 67 mètres carrés, 35 rue de l'Amour, au profit de Mme Lionti a été validée au prix de 30 000 euros. L'estimation de France Domaine étant de 113 000 euros correspondait à la valeur d'acquisition par Viatra, anciennement Sebly, le 6 mars 2007. Viatra, n'ayant pas pu vendre ce lot, la commune d'Agde a eu l'obligation de le racheter. Ce bien inoccupé depuis 17 ans s'est dégradé et sauf à devoir investir fortement dans sa rénovation, la commune a préféré s'en séparer dans les meilleurs délais, le projet de Mme Léonti étant jugé pertinent. Il s'agit donc de confirmer la décision de la vente au prix de 30 000 euros.
Merci, Monsieur Bentajou. Avez-vous des questions ? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je mets aux voix. Des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Louis, toujours à toi pour la question 6, acquisition de la parcelle.
Voilà, il s'agit de l'acquisition de la parcelle LEM 379 de 33 mètres carrés, Monsieur et Madame d'Autremont, pour l'élargissement de la rue Fontaine de Nouguier, en contrepartie des droits à bâtir.
Merci, Monsieur Bentajou. Vous voyez donc à l'écran où sont positionnées les parcelles dont il est question. Il s'agit en l'occurrence d'un alignement, comme pour les questions d'ailleurs qui suivront, sans vouloir déflorer le sujet. Y a-t-il des questions ? Non, je mets aux voix. Des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, c'est approuvé à l'unanimité. Merci. Question 7, acquisition d'une emprise à extraire. Alors, de la parcelle cadastrée HM50 au lieu dit des 4 carrières.
Oui, il s'agit de l'acquisition de la parcelle ML384 de 39 mètres carrés. C'est la 6, là, je suis à la question 6. Hein.
Pardon, c'est moi qui t'ai induit en erreur. Oui, excuse-moi.
Alors, Monsieur Goudou, il s'agit de l'élargissement du chemin du sucre en contrepartie des droits à bâtir.
Merci. Avez-vous des questions? Non. Des votes contre, des abstentions, aucune. C'est approuvé à l'unanimité.
La question numéro 7, il s'agit de l'acquisition d'une partie de la parcelle HN50, les quatre carrières, Monsieur Raynon. Le tracé de la nouvelle voirie a dû être modifié et les emprises à acquérir sont plus grandes que celles prévues. Monsieur Raynon cède 1087 mètres carrés au lieu de 644 mètres carrés, au prix d'un euro le mètre carré, soit 1087 euros. Contrepartie, construction d'une clôture grillagée.
Très bien, merci. Monsieur Bentajou, nous avions délibéré une première fois, nous y revenons parce qu'il nous faut acquérir 400 mètres carrés de plus, voilà. Eu égard à la géologie de la parcelle. Est-ce que cela appelle des remarques? Non. Donc je mets aux voix des votes contre, des abstentions, aucune. C'est approuvé à l'unanimité. Monsieur Bentajou.
Pour moi, la dernière, c'est la question numéro 8. Acquisition d'une emprise à extraire de la parcelle MN108 de 56 mètres carrés. Concernant l'élargissement du chemin du Grand Tétra, en contrepartie des droits à bâtir.
Très bien, c'est limpide. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de main. Je mets aux voix des votes contre, des abstentions. C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Je vais passer, merci, Monsieur Bentajou. Je vais passer la parole maintenant à Madame Ray pour nous présenter la question relative à la convention de partenariat entre la ville d'Agde et l'Office du tourisme.
Merci, Monsieur le Premier adjoint, Mesdames, Messieurs. La ville d'Agde et l'Office du tourisme s'associent afin de présenter une offre de parcours de visite guidée payante destinée au public au plein tarif de 10 euros. D'avril à novembre 2024, le service patrimoine littoral de l'Office du tourisme sera en charge d'organiser des visites guidées, couplant d'une part le parcours du cœur de ville à celui du musée Jules Boudou, et d'autre part, la visite du site d'Embonne, adossée à celle du musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine. La billetterie étant assurée par l'Office du tourisme Cap d'Agde Méditerranée, ce dernier disposera d'une commission de 10% sur l'ensemble des ventes.
Merci, Madame Ray. Merci beaucoup. Avez-vous, cela appelle-t-il des remarques ou des questions? Alors, avant de mettre la délibération aux voix, vous voyez ici quelques informations relatives à la campagne de communication nationale qui a été engagée par l'Office du tourisme. Donc peut-être, Véronique, il te revient d'en présenter les chiffres.
Merci, oui. En fait, l'Office du tourisme engage chaque année une campagne de communication nationale. Et pour 2024, vous avez 221 spots TV, dont 121 spots sur BFM qui ont eu lieu du 25 au 31 mars. Et 100 spots sur CNews du 25 mars au 7 avril. Et en complément de cette campagne télévision, une parution dans la presse magazine du week-end avec le Figaro magazine, qui paraîtront le 5 avril et le 3 mai 2024, avec comme visuel le château Laurens et la station du Cap d'Agde avec les illustrations de Dose.
Merci beaucoup, Madame Ray. Des questions? Non.
Pardon.
Oui, pardon, Madame Barrezano,
j'avais pas. Dire qu'on a eu beaucoup de publicité ces derniers temps et gratuite.
Donc, oui, mais vous voyez, celle-là est moins gratuite.
Elle a été renforcée. C'était simplement comme ça, un petit clin d'œil.
Oui, c'est un petit clin d'œil sympa. Alors là, c'est pas tout à fait gratuit, reconnaissons-le, mais pour autant, alors c'est dommage parce que on aurait aimé vous diffuser la vidéo, mais on n'a pas le son. On n'aurait pas pu accompagner la projection de la vidéo par le son. Ce qui permet pas de produire le même effet, mais les spots de la vie de ceux qui les ont vus étaient de belle qualité et donnaient envie de venir passer des vacances chez nous. Donc on en est très heureux. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Monsieur Glomo. Parlez-nous, s'il vous plaît, du contrat de partenariat public-privé pour la gestion de l'éclairage public. Il s'agit de l'avenant 10.
Merci, Monsieur le Premier adjoint. Oui, c'est un avenant purement technique. Dans le cadre du contrat de PPP sur la gestion de l'éclairage public, il s'agit du changement de dénomination d'une filiale d'EDF. La société Citelum nous informe que dorénavant, elle va s'appeler Dalkia Électronique. Le conseil municipal est appelé à se prononcer.
Très bien. Merci, Monsieur Glomot. Donc, une délibération qui a d'ailleurs été présentée ce matin en commission consultative des services publics locaux, qui n'a pas soulevé de grands débats. Donc, la commission ayant donné un avis favorable, et maintenant, il revient au conseil municipal de se prononcer. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Aucune. C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Bonafou, présentez-nous, s'il vous plaît, les éléments saillants du règlement intérieur du centre superviseur urbain.
Oui, merci, monsieur le premier adjoint. Donc, la ville d'Agde a mis en place un système de vidéoprotection depuis 1996, afin donc de favoriser la prévention de la délinquance, de renforcer la dissuasion et d'assurer plus efficacement la sécurité des biens et des personnes dans le respect des libertés publiques et individuelles. Donc, ce règlement a pour objet de définir le cadre réglementaire de la vidéoprotection, l'organisation, le fonctionnement et surtout les conditions d'accès au nouveau CSU, et les conditions et transmission des enregistrements, des règles de confidentialité, des procédures de l'information et les missions du personnel du CSU et agents de police municipale chargés de l'exploitation donc de la vidéoprotection. Pour mémoire, à ce jour, le CSU dispose donc de 102 caméras de vidéoprotection, 10 vont être prochainement déployées en plus. Donc, normalement, avant la saison donc 2024, donc sur les quartiers d'Agde, du Gros et au village naturiste, parce qu'on va bénéficier de fonds spéciaux par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport au fonds d'installation de prévention de délinquance. On dispose de 6 caméras fixes aux entrées et sorties du village naturiste, 40 caméras de parking et lecture de plaques, et 78 caméras pour la surveillance des bâtiments communaux, ce qui fait un total de 283 caméras. Vous avez appris un ratio. Là, c'est le ratio, c'est le nombre d'habitants surveillés par caméra. Vous voyez que donc Agde, avec le nombre de caméras qu'on a, on a plutôt un bon ratio, puisque c'est 185 personnes qui sont, entre guillemets, protégées pour une caméra.
Merci, monsieur Bonafou. Donc, pour ceux qui sont un petit peu éloignés de l'écran, qui ne le verraient pas, à Montpellier, il y a 800 habitants pour une caméra. À Frontignan, il y en a 453. À Lunel, il y en a 407. À Sète, il y en a 353. À Agde, il y a 283 habitants pour une caméra. Et le champion de l'Hérault est Béziers avec 185 caméras pour un habitant. Bon, la commune d'Agde se situe au deuxième rang de ce classement parmi les communes de l'Hérault.
Monsieur le premier adjoint, si nous, on va revenir au débat habituel. Combien d'habitants ? Vous avez pris 30 000 ou vous avez pris 200 000 ?
J'étais sûr que vous alliez poser. Là, c'est toutes les communes, population INSEE, il faut qu'on puisse les comparer.
Non. Sauf que Agde ne rentre pas dans le... Dans le...
Je pense que dans 20 ans, on sera encore là en train d'en discuter. Un autre chiffre, Agde à 283, la ville de Montpellier, donc Agde à 283 caméras, la ville de Montpellier en a 340.
Ouais.
Donc vous voyez qu'on n'est pas si mal doté.
La question qu'on se posait, c'est que le dernier débat qu'on a eu sur le nombre d'habitants, vous savez, donc là on dit 282 par habitant, une base de 30 000 habitants.
Oui, mais vous faisiez référence à des faits de délinquance.
C'est ça.
Ouais, non mais
Quelle question on a, ça dépend. Okay. Des fois c'est bien d'en avoir 200 000 et puis des fois c'est bien d'en avoir 30 000.
Je ne veux pas relancer le débat parce que à l'apéro, si vous voulez, tout à l'heure. Mais on ne va pas ennuyer les gens. Avez-vous plus sérieusement des questions concernant... Non, alors, des questions, oui. Mais il ne faut pas voter cette délibération. Il suffit d'en prendre acte, hein, n'est-ce pas, monsieur le directeur ? Oui. C'est ça ? Donc, nous prenons acte de ce règlement intérieur. Je vais rendre la parole à monsieur Perea pour qu'il nous dise un mot de l'adhésion au club des utilisateurs des logiciels Cédit Marianne.
CUSMA. En effet, alors c'est notamment les logiciels qui permettent de gérer les finances, donc ils sont assez importants, et notamment dans le cadre de la modernisation de l'administration et des process qui sont associés. C'est une adhésion au club des 133 communautés, structures, collectivités adhérentes, à hauteur de 300 euros par an. Et ça permet de discuter, d'avoir un dialogue plus privilégié encore avec l'éditeur et de faire entendre les besoins que l'on a.
D'accord. Pour 25 euros par mois, vous n'avez pas le droit à plus de temps de parole, monsieur Perea.
C'est vrai ?
Ouais. Non, je suis désolé. Donc, on met aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Ok, c'est bon, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Mathia, nous vous écoutons concernant les chantiers d'insertion en partenariat avec le plan local pour l'insertion et l'emploi et l'association Le Passe Muraille. Et pendant que vous nous expliquerez ce qu'il en est, donc un certain nombre d'images seront diffusées à l'écran.
Merci, monsieur le premier adjoint. Bonsoir à toutes et à tous. Le 5 décembre 2023, le comité départemental d'insertion par l'activité économique a validé la programmation des chantiers d'insertion pour 2024 à développer par les plans locaux d'insertion par l'économie. Trois chantiers ont été attribués au PLI du service de la CAM, qui s'inscrit depuis des années dans une démarche de lutte contre le chômage dans le cadre de sa compétence politique de la ville. La ville d'Agde s'est une fois encore portée partie prenante pour le chantier valorisation du patrimoine naturel et bâti, en faveur des personnes éloignées de l'emploi et orientées par les prescripteurs de l'insertion par l'activité économique, à savoir France Travail, les missions locales, le CCAS ou Cap Emploi pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, selon des critères bien précis. Ce chantier mis en œuvre par l'association Passe Muraille va durer 12 mois pour au moins 12 salariés en contrat à durée déterminée d'insertion de 4 à 6 mois renouvelables. Des plateaux d'application ont été identifiés et proposés par divers services de la commune, comme décrit dans la délibération et dont vous voyez quelques photographies. Pour réaliser ce chantier, la commune d'Agde apporte son soutien financier à l'association pour les achats de matériel et matériaux et pour la conduite du chantier, en prenant à sa charge la part des contrats non remboursés par l'État, ainsi que les équipements de protection individuelle. Ainsi, chers collègues, pour finaliser cette opération, je vous demande de valider la mise en place de ce chantier et d'autoriser la signature de la convention entre Passe Muraille, la CAM et la ville d'Agde, et préciser que les dépenses sont inscrites sur le budget de la ville et y seront prélevées.
Pardon. Merci beaucoup, Madame Mathia. Donc, ce sont des chantiers qui permettent de remettre en situation d'emploi des personnes qui ont pu rencontrer des difficultés dans leur vie. Et outre cet aspect très, très intéressant, ces chantiers font profiter à la collectivité et à l'ensemble des agatoires d'aménagements dont vous jugerez qu'ils sont de très bonne qualité. Voilà, donc continuons en ce sens. Merci beaucoup, Madame Mathia. Y a-t-il des questions ? Non ? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Aucune. C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Madame Maerten pour qu'elle nous présente quatre questions. La première de ces quatre questions concerne la charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM. Nous vous écoutons.
Oui, donc merci. Cette charte a vocation à clarifier les rôles des différents partenaires, enseignants, ATSEM et villes, au sein des écoles maternelles. Plus qu'un règlement, la charte doit être un outil de référence et de communication important au sein de la communauté éducative en vue d'un objectif commun, le bien-être de l'enfant à l'école, la réussite de l'élève et son épanouissement. C'est pourquoi, dans le droit fil du guide de recommandation pour l'amélioration des conditions de travail des ATSEM, il est convenu aujourd'hui d'actualiser cette charte. Cette charte vous est présentée pour information. Elle a été validée en séance du comité social territorial le 18 mars 2024.
Merci beaucoup, Madame Maerten. Cela appelle-t-il des remarques ou des questions ? Je ne crois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non, c'est approuvé à l'unanimité. Madame Maerten, la mise à disposition des deux agents de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée auprès de la ville d'Agde.
Oui, donc la communauté d'agglomération gère en commun avec la ville d'Agde la direction des systèmes d'information et numérique, la DSIN. La ville ayant des besoins spécifiques concernant les projets et la maintenance des applicatifs métiers déployés par la commune, il est proposé la mise à disposition de deux agents de la DSIN auprès de la commune.
Très bien, c'est parfaitement clair. Y a-t-il des questions ? Donc je mets aux voix, des votes contre, des abstentions. C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Question 16, mise à disposition d'un agent de la direction des finances de la ville d'Agde auprès de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée.
Donc les missions liées à la régie de la taxe de séjour n'étant plus assurées par la commune d'Agde et la communauté d'agglomération ayant besoin d'un renfort au sein du service comptabilité de la direction des finances, il vous est proposé la mise à disposition d'un agent de la direction du service finances de la ville auprès de l'agglo pour une durée de 1 an renouvelable à compter du 1er avril 2024.
Merci. Y a-t-il des interrogations ? Non, je mets aux voix, des votes contre, des abstentions, aucune, c'est approuvé à l'unanimité. Et pour finir, protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents. Madame Maherten.
Donc le CDG va lancer pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics, lui ayant donné mandat, une procédure de mise en concurrence pour conclure une convention de participation pour la couverture du risque prévoyance. Cette procédure permettra à tout agent d'accéder à une offre de garantie d'assurance prévoyance mutualisée et attractive, éligible à la participation financière de son employeur, à effet du 1er janvier 2025. Il est donc proposé de donner mandat préalable au CDG 34 afin de mener la mise en concurrence.
Merci.
Merci.
Avez-vous des questions ? Non plus. Donc je mets aux voix, des votes contre, des abstentions ? Non, c'est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. La question 18 a trait au compte-rendu des décisions de M. le maire. Donc ça n'appelle pas de vote. Il nous faut en prendre acte. Avez-vous des questions ? Oui, M. Figueras.
Sur ces décisions, donc je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent,
oui,
que nous avons, nous, conseillers municipaux, nous recevons un compte rendu des décisions du maire qui ne sont en fait que des titres. Hein, nous, oui, n'avons pas le détail de ce qui se passe dans ces décisions. Et à chaque fois, nous sollicitons vos services, et je les en remercie parce qu'ils nous répondent très promptement à nos demandes, et nous sollicitons les services pour avoir le détail à chaque fois. Bien évidemment, comme nous recevons tout ça à peine 4 ou 5 jours avant le conseil municipal, les délais sont relativement courts. Donc nous souhaiterions à l'avenir, et c'est une demande que nous avions faite ici même à plusieurs reprises à M. Détor, mais qu'il n'a pas tenu compte, nous souhaitons recevoir le détail à chaque fois de ces délibérations, et pas à chaque fois à venir vous les demander, vous les quémander, parce que vous comprendrez bien que devant le contexte actuel, nous souhaiterions avoir l'ensemble du détail de ces décisions. Donc ouais, j'aimerais bien que M. Frey nous donne...
Il n'y aura pas d'obstruction. Si je veux être un peu taquin, moi aussi.
Oh, je ne suis pas taquin.
C'est par rapport à votre voisine qui l'a été tout à l'heure. Et après, on peut l'être. Venez aux commissions municipales.
Venez où ?
Aux commissions.
Pourquoi j'y suis pas aux commissions ?
Ben, il semblerait qu'à la dernière, vous n'ayez pas pu venir.
Exactement.
Voilà. À la dernière. Non, c'était pour plaisanter, monsieur, oui, Figueras. Mais alors le truc, c'est que moi, je veux bien. Vous voyez, enfin, il y a 4 pages de.
Oui.
Et si, parce qu'on n'est pas non plus forcément dans l'attente de la convocation d'un conseil municipal pour examiner des questions. Si de temps en temps vous souhaitez voir les décisions, il n'y a aucune difficulté à ce qu'on vous présente et vous ne serez pas tenu par le délai de la convocation du conseil municipal qui est de 5 jours. Peut-être que ce sera plus confortable pour vous. Après, il faut que les services puissent s'organiser.
Du moment qu'ils nous envoient en même temps que
tout ça en 5 jours.
Oui.
Bon, ben, si vous le préférez.
On fera le tri après.
Eh ben ouais, c'est bon courage.
Ah, mais on n'en manque pas, vous inquiétez, oui, pas.
C'est une façon de parler, je n'en doute pas. Très bien. Ouais, je ne sais pas combien il y a de décisions, mais ça fait un petit paquet. Écoutez, si c'est votre souhait, on y accédera. Alors, je voudrais terminer par la question que je vous ai demandé de bien vouloir inscrire en questions diverses de ce conseil municipal, parce que vous comprendrez qu'il est important que nous délibérions aujourd'hui. Est-ce que vous avez... la délibération a été communiquée sur vos bureaux ? Oui, vous l'avez. Ok, très bien. J'en lis les passages les plus importants et bien évidemment, chacun pourra ici exprimer son point de vue. La Commission nationale du débat public a été saisie par le gouvernement pour veiller au respect de la participation du public dans la mise à jour de la cartographie de l'éolien en mer. Elle a décidé d'organiser des débats publics mutualisés sur les façades maritimes de la France métropolitaine. Ce débat public est prévu pour se dérouler jusqu'au 26 avril de cette année. La réunion qui a été organisée concernant notre commune a eu lieu la semaine dernière. Donc, M. Glomeau y a représenté la ville. M. le sous-préfet y était présent. Et un bureau d'études a fait la présentation des éléments d'information qui pouvaient être portés à la connaissance de toutes les personnes qui sont venues participer à cette réunion. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L121-1-8 du Code de l'environnement, les collectivités territoriales des régions maritimes sont invitées à formuler un avis. Donc, il y a de multiples enjeux qui se croisent concernant notre littoral. Il y a bien évidemment la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore. Il y a la question qui est d'ordre économique. Puisque nous sommes sur un littoral qui vit largement de l'activité touristique et que par conséquent le paysage, outre son aspect lié à l'environnement et à la biodiversité, revêt une importance capitale en termes économiques. Et puis il y a aussi des activités existantes ou émergentes qui pourraient voir leur développement ou leur maintien contrarié par l'installation au large de nos côtes d'un parc d'éoliennes. Je pense notamment à la pêche, aussi à la plaisance. Par conséquent, il vous est proposé de délibérer en ce sens afin de rappeler que la ville d'Agde est particulièrement investie sur les questions de transition énergétique au moyen des actions qu'elle a déjà mises en œuvre pour favoriser le mix énergétique. Nous ne sommes pas en retard, loin s'en faut, concernant notamment le photovoltaïque, d'exprimer une attente forte pour que les remarques et avis émis dans le cadre de cette démarche soient pris en compte pour ne pas laisser à penser que tout est décidé d'avance. J'espère de tout cœur que cette concertation engagée à la demande de l'État laissera le champ à des modifications apportées au projet tel qu'il nous a été présenté. De valider la définition des zones de protection forte en prenant en compte les enjeux de biodiversité et des enjeux socio-économiques. De demander, cela nous semble absolument capital, que l'évaluation de l'impact des fermes pilotes sur la biodiversité et les paysages soit réalisée et publiée avant toute extension de nouvelles fermes éoliennes. Et notre crainte est grande de voir les résultats de ces études présenté après que les décisions aient été prises par l'État. Et enfin, de formuler une opposition résolue à ce projet de développement de fermes éoliennes dans la mesure où les conditions énoncées précédemment ne seraient pas remplies. Alors, ouais, là, c'est malheureux parce que on ne voit pas, enfin, je ne pense pas que vous puissiez distinguer les éoliennes et il pourrait vous sembler que finalement l'impact n'est pas grand. Simplement, ces éoliennes qui seraient au nombre de 15, là c'est vu du haut de la Grande Conque, elles sont en haut, elles seraient dans un premier temps au nombre de 15, il est prévu que leur nombre puisse être augmenté pour passer à 45 dans un second temps. Lorsque la pale est à la verticale, la hauteur de l'éolienne est de 285 mètres. Voilà, donc le Mont Saint-Loup culmine à 110 mètres. Donc nous sommes pour les énergies renouvelables. Nous faisons du photovoltaïque, nous faisons de la géothermie, mais nous demandons à ce que les enjeux de notre territoire soient pris en compte avant qu'une décision qui incombera à l'État ne soit prise d'une manière qui sera à l'échelle de l'homme, enfin à l'échelle de tout homme modeste, définitive. Voilà. Donc c'est un sujet pour nous de grande préoccupation et ce qui justifie que nous inscrivions cette question à l'ordre du jour en questions diverses afin que nous contribuions au débat public en indiquant notre plus grande inquiétude et notre opposition tant que les réponses aux questions que nous avons posées n'auront pas trouvé de réponse jugée par nous rassurante. Monsieur Dumont.
Oui, c'est un sujet très important et très vaste. Je suis incapable de donner un avis sur ce projet-là. Ce qui me choque un petit peu, c'est la dernière partie de la délibération qui ne correspond pas à ce que vous nous annoncez. Et autant je suis à peu près d'accord avec ce que vous annoncez, sous réserve que ce que nous avons demandé précédemment a bien été réalisé.
Dites-nous clairement, Monsieur Dumont, il n'y a pas de problème.
C'est pour ça que je le dis clairement. Pour les raisons énoncées, donc ça veut dire qu'il y a une opposition totale au projet, résolue au projet, pour les raisons énoncées, et non pas sous réserve que les demandes soient réalisées.
Moi, j'ai de formuler une opposition. Alors, je vous lis le texte que j'ai sous les yeux. J'espère que c'est bien le même. Une opposition résolue à ce projet de développement de fermes éoliennes au large de nos côtes pour les raisons énoncées et détaillées dans la présente délibération.
Là, ils sont écrits pour les raisons énoncées.
Oui.
On est contre pour les raisons énoncées. Et ce que vous nous dites, et ce à quoi j'adhérerai plus facilement, c'est sous réserve que les demandes que nous faisons soient réalisées.
Oui, d'accord.
Une opposition ferme et résolue. Sujet personne, je pense,
oui,
dans l'Assemblée
connaît,
s'opposer de manière ferme et résolue sur un projet que nous ne connaissons pas. Autant je peux admettre effectivement que vous fassiez des demandes,
je
et
comprends.
Là je suppose que M. Blomot les raisons de poser ces conditions-là, et je l'entends, et sûrement,
alors,
sûrement raison,
monsieur
si,
Dumont,
elles sont réalisées, peut-on avoir une opposition ferme et résolue?
Oui, mais je comprends votre raisonnement. Vous êtes quelqu'un vous êtes dans la mesure, donc je comprends ce que vous voulez dire. Pour autant, je crois l'être aussi à peu près dans la mesure. Sur cette question qui est lourde de conséquences possibles pour notre territoire, je préfère qu'on soit dans la clarté la plus absolue. C'est-à-dire que, de toute façon, ce n'est pas le terme que l'on choisira qui déterminera la décision de l'État, malheureusement. Mais je crois qu'il est beaucoup plus prudent pour les intérêts de notre commune que nous fassions entendre aujourd'hui que nous sommes opposés au projet tel qu'il nous est présenté. Si nous commençons à dire « oui, nous serions d'accord si... » Alors, je vous le dis parce que, évidemment, si l'État revient avec un projet qui fait état d'éoliennes qui font la moitié, qui sont 10 km plus loin, qui sont moins nombreuses, ben on pourra considérer que l'impact est moins grand. Mais je crois intimement, et ça, d'ailleurs ce n'est pas un sujet qui doit être polémique ici au sein de l'Assemblée municipale, je crois que dans l'intérêt de la commune, il faut dire notre plus grande inquiétude et notre opposition au projet tel qu'il nous a été présenté.
Ce qui est écrit, excusez-moi, mais je vous savez que je suis assez, je sais à peu près lire, et quand je
vous
vois,
savez
ce
parfaitement
c'est
lire,
pas, c'est pas pour, c'est pas par rapport au projet qui nous a présenté. Moi, ça, je
une opposition
pas
ce... résolue à ce projet de développement de fermes éoliennes au large de nos côtes pour les raisons énoncées et détaillées dans la présente délibération. On dit que voilà, on est inquiet pour
c'est
l'impact
de demander l'évaluation de l'impact, etc. Donc c'est pas par rapport au projet qui a été présenté. Moi, ça m'empêcherait, ça me gênerait pas.
Je vous laisse déterminer le sens de votre vote. Je pense que sur le fond, on partage le même sentiment, le même avis. Concernant la formulation, je souhaite qu'elle soit la plus limpide, qu'il soit en direction des services de l'État. Il y aura, je l'espère, d'autres phases de consultation et que celle-ci ne s'arrêtera pas au 26 avril de cette année. Eu égard à l'importance des enjeux, nous aurons peut-être, je l'espère, des occasions de dire en des termes plus précis ce que nous sommes en mesure d'accepter ou ce que nous voulons refuser. Mais vu l'urgence qu'il y a, étant donné le terme de la phase de concertation engagée par l'État, ne soyons pas dans la demi-posture
ou
demi-mesure.
Comme l'on peut rectifier légèrement une délibération,
oui, mais, là, je
mais
ne
par
suis...
rapport à l'opposition au projet présenté, point final.
L'opposition au projet présenté, oui. Enfin, voilà, si ça vous amène à voter contre l'opposition au projet présenté, oui. Si...
C'est clair et c'est...
Allez, il n'y a pas de problème. Je pense que personne ne s'offusquera de cette modification de dernière minute. Et comme ça, nous aurons une unanimité qui renforcera notre position en direction de l'État. Notre opposition au projet présenté. Est-ce qu'il y a des avis contraires à cette modification de la délibération? Non. Donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Elle est approuvée à l'unanimité. Je vous remercie et je lève la séance. Je vous remercie.